Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir, chers amis et auditeurs, ravis de vous retrouver en ce mercredi 13 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Frappe massive d'Israël contre Abu Kamal al-Mayadine tourne court. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, la fin de Trump avec honte et scandale montre que la dictature, l'intimidation, le racisme et la violation de la loi ne connaîtront jamais une fin heureuse dans le monde. Déclaration ce matin du président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani. L'Iran a un bilan clair dans la lutte contre Al-Qaïda, rétorque le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères en réaction aux allégations anti-iraniennes de Mike Pompeo. Et puis Israël lance de nouvelles frappes aériennes sur la Syrie, ciblant la partie orientale du pays près de la frontière irakienne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La fin de Trump avec honte et scandale montre que la dictature, l'intimidation, le racisme et la violation de la loi ne connaîtront jamais une fin heureuse dans le monde. Déclaration ce matin, je vous le disais, en titre du président Rouhani. Le président de la République islamique, Hassan Rouhani, a déclaré que les États-Unis souffraient d'un fossé politique majeur à la suite d'une attaque des partisans du président Donald Trump contre le Congrès. Rouhani a qualifié de sans précédent la prise d'assaut du siège du Congrès américain mercredi dernier. Il a déclaré que la nation américaine n'imaginait jamais que son président incite à une telle violence. S'agissant de la soi-disant campagne de pression maximale américaine contre l'Iran, Hassan Rouhani l'a également qualifié d'échouée. Le peuple iranien reste toujours fort malgré les sanctions et les pressions, ajoute Rouhani avant de conclure que l'Iran a même réalisé une croissance économique au cours des derniers mois. Les terroristes impliqués dans l'événement du 11 septembre venaient des pays préférés de Pompeo, rappelle Zarif. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que son homologue américain marquait le crépuscule de sa carrière déjà désastreuse avec une fin pathétique en recourant à des mensonges bellicistes sans fondement sur l'Iran et d'autres pays. Sans aucune preuve, le secrétaire d'État américain finissant a accusé l'Iran de devenir nouvelle base du groupe terroriste d'Al-Qaïda. Personne n'est dupe. Tous les terroristes du 11 septembre venaient des destinations préférées de Pompeo. Aucun d'Iran. Zarif faisait référence à l'Arabie saoudite, parrain financier idéologique bien connu du groupe terroriste impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Et l'Iran a un bilan clair dans la lutte contre Al-Qaïda, rétorque le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères en réaction, je vous le disais en titre, aux allégations anti-iraniennes de Mike Pompeo. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement rejeté les allégations infondées du secrétaire d'État sortant américain Mike Pompeo, qui accuse Téhéran d'avoir des liens avec le groupe terroriste d'Al-Qaïda. Rejetant les allégations, le diplomate les a qualifiées de répétition d'anciennes accusations. Répéter les accusations et montrer des documents fabriqués de toutes pièces sous le nom de révélation d'informations confidentielles par Pompeo dans les derniers jours du règne parien du régime Trump montre leur désespoir et l'échec de la pression maximale contre l'Iran, a-t-il dit. Le recours à de tels stratagèmes et à des affirmations sans fondement ne peut en aucun cas aider le régime terroriste et plein d'erreurs américains à redorer sa blason, conclut Saïd Khatibzadeh. La marine iranienne a lancé son plus gros navire militaire, un porte-hélicoptère construit dans le pays pour les mouvements logistiques à grande échelle. Il s'agit d'une île mobile, autrement dit une base mobile, qui vient de rejoindre la marine iranienne en présence du chef d'état-major interarmé iranien, le général de division Mohammad Bagheri, dans le cadre des exercices navals lancés hier. Cette base mobile porte le nom de Markan, qui est le nom d'une localité côtière au sud de l'Iran. La base mobile est capable de transporter 5 hélicoptères. Le porte-hélicoptère soutiendra les flottes navales iraniennes dans la partie nord de l'océan Indien, le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge. La marine iranienne a également reçu un destroyer de missiles appelé Zareh, signifiant « armure ». La diplomatie chinoise a une fois de plus condamné par la voix de son porte-parole Zhao Lijian les sanctions unilatérales américaines contre l'Iran. Ce sont les États-Unis qui sont le plus grand facteur de déstabilisation, menaçant la paix et la sécurité mondiale et sapant la coopération multilatérale, a-t-il déclaré. Acharné dans son unilatéralisme, les États-Unis se retirent des traités et des organisations internationaux et fait recours arbitrairement à la menace de sanctions. À ce jour, il est sorti d'une douzaine de conventions et organisations internationales, a-t-il constaté. Les États-Unis ont annoncé unilatéralement le rétablissement des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran et ont abusé du statut de l'ONU pour diffamer de manière flagrante d'autres pays, mais ont fini par susciter une large opposition de la communauté internationale, a noté Lijian. De tels comportements sapent gravement la coopération internationale dans divers domaines, l'ordre et le mécanisme internationaux, la paix, la stabilité et la sécurité mondiale, pointe le diplomate. Autre thème, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un promet de renforcer l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. En renforçant notre dissuasion militaire nucléaire, nous devons tout faire pour construire l'appareil militaire le plus puissant, a déclaré Kim Jong-un lors de la clôture du Parti des travailleurs, selon l'agence officielle nord-coréenne. Critiquant sévèrement les États-Unis, à quelques jours de l'investiture du président démocrate Joe Biden, il a qualifié Washington de principal ennemi de la Corée du Nord et d'obstacle fondamental au développement de la révolution nord-coréenne. Kim a déclaré que la véritable intention de la politique de Washington à l'égard de Pyongyang ne changera jamais, quel que soit le pouvoir aux États-Unis. Israël lance, je vous le disais en titre, de nouvelles frappes aériennes sur la Syrie, ciblant la partie orientale du pays, près de la frontière irakienne. Des sources bien informées ont déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées lors des frappes israéliennes. La semaine dernière, la défense aérienne syrienne a signalé une autre attaque israélienne contre la capitale Damas. Israël a intensifié ses attaques aériennes contre la Syrie au cours des derniers mois. C'est une réaction aux victoires du gouvernement syrien contre des terroristes soutenus par l'étranger. Certains groupes terroristes bénéficient directement du soutien israélien. Damas a appelé les Nations Unies à prendre des mesures décisives pour mettre fin aux agressions israéliennes. L'Union européenne a critiqué la décision américaine d'étiqueter le mouvement Ansar Allah au Yémen comme une organisation terroriste. Un porte-parole du chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que cette décision pourrait entraver les efforts menés par les Européens pour parvenir à une solution globale au conflit au Yémen. Il a ajouté que cette désignation compliquerait le travail de la communauté internationale sur les fronts politiques et humanitaires. On craint également que la liste noire ne perturbe l'acheminement de l'aide humanitaire internationale au Yémen et n'aggrave encore la crise économique du pays. La décision de l'administration Trump a suscité des critiques de la part des Nations Unies et des groupes d'aide, ainsi que des législateurs aux États-Unis. Le mouvement Ansar Allah au Yémen, condamnant la décision, a affirmé qu'il se réserve le droit de réagir. La Grande-Bretagne a signalé son deuxième plus grand nombre de décès dus au COVID-19 en une seule journée, avec plus de 1200 nouveaux décès, alors que le virus continue de faire des ravages à travers l'Europe. La Grande-Bretagne a également signalé plus de 45 000 nouveaux cas d'infection. Les derniers chiffres portent le nombre total de cas confirmés de virus à plus de 3,1 millions et le nombre de décès à plus de 83 000. Ailleurs, sur le continent, le ministère français de la Santé a signalé près de 20 000 nouvelles infections, plus de 5 fois plus de celles d'hier. Jusqu'à présent, le virus a fait environ 70 000 morts sur plus de 2,8 millions de cas en France. Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel ne cache pas son pessimisme face à la situation sanitaire outre-Rhin. Devant les députés de son parti, la chancelière aurait en effet assuré que le confinement, pour l'instant en vigueur jusqu'au 31 janvier, pourrait s'étendre jusqu'au mois d'avril 2021. Le gouvernement néerlandais a également annoncé qu'il prolongerait les mesures de verrouillage de moins 3 semaines. Enfin, la Chambre des représentants américaine a approuvé une résolution qui exhorte le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement pour destituer le président Donald Trump de ses fonctions. La mesure a été adoptée par un vote final de 223 voix contre 205. Pence a déclaré qu'il n'invoquerait pas le 25e amendement. Il a déclaré que cette décision n'était pas dans l'intérêt du peuple américain. Les démocrates de la Chambre disent qu'ils voteront jeudi sur la destitution de Trump si l'article n'est pas invoqué. La destitution porterait sur les accusations d'incitation à l'insurrection après que les partisans de Trump eurent attaqué le Capitole américain mercredi dernier. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Frappe massive d'Israël contre Abu Kamal al-Mayadin tourne court. Jusqu'en 2018, date de sa libération des mains de Daesh USA par l'armée syrienne et la résistance irakienne, le point de passage stratégique d'Abu Kamal a été la principale voie de transit des terroristes daeshistes qui fuyaient à bord des hélicos US la Syrie pour Al-Anbar ou appuyer les GIs. Que dans la nuit de mardi à mercredi 12 janvier, les F-16 israéliens, si terriblement limités sur le front sud syrien par une frontière syro-sud libanais totalement barricadée à la faveur des batteries de missiles antimissiles made in Iran, Khordad 3, entre autres, en viennent à l'instigation US à frapper les positions de l'armée syrienne et de ses alliés de la résistance à Abu Kamal et al-Mayadin. Au lieu de la résistance, et ce, au risque de se faire ratatiner dans le ciel jordano-irakien. Cela veut dire que l'axe USA-Israël se trouve dans de beaux draps. Ces 3 derniers jours, soit à l'approche du shit power sanglant qui est sur le point de se dérouler à Washington, cet axe s'est livré à une série de mesures folles que les médias occidentaux ont faussement décrit comme étant des tentatives de Trump destinées à compromettre tout deal possible Biden-Iran, mais qui, à regarder de près, ne sont que de lamentables fuites en avant visant à débloquer un état désormais irréversible, le siège total d'Israël. En Irak, les principales artères de communication du Pentagone, par où transiteraient il y a pas si longtemps encore, et depuis la Syrie, le Koweït et la Jordanie, armée terroriste à destination d'Al-Anbar à l'ouest de l'Irak, pour affaiblir la résistance irakienne et tenter de déverrouiller le point de passage Abu Kamal Qaim à des fins d'infiltration terroriste, sont de facto coupés, les convois militaires US n'ayant plus aucune chance de traverser Nasseriya, Divania, etc. sans incident. À des réseaux où les États-Unis ont tenté cette semaine de fortifier leurs bases et installations de contrebande de pétrole à Al-Omar, les attaques anti-US sont connues telles une montée en flèche que le CENTCOM a décidé d'épuiser dans ses réserves en Daesh à Hasake et a injecté une bonne dose de terroristes à Al-Tanf et Al-Omar. Façon de se protéger des attaques croissantes. Il y a deux jours, le CENTCOM a même commis la faute de liquider le chef de la principale tribu d'Al-Omar, croyant pouvoir inverser la tendance. Mais sans espoir, l'Est syrien est désormais un front totalement ouvert contre Israël et ce ne seraient pas les raids aériens de Pakouti qui changeraient quoi que ce soit. Vous pouvez trouver l'intégralité de cet article sur le site french.presstv.com. Bonne lecture.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Ce sera un débat prometteur. Nous allons parler des États-Unis avec cette bombe, cette nouvelle bombe nucléaire, petite et maniable, qui a été mise sur pied par les États-Unis et essayée à maintes reprises. Et ça sera très certainement entreposé en Europe. Alors pourquoi l'Europe ? Car la France et l'Allemagne viennent tout récemment essayer et ont fait des tests sur des bombes similaires dans leur pays. Donc force est de constater que l'Europe deviendra prochainement une base militaire ou plutôt un front contre la Russie car c'est plus près. Alors, nous allons voir plus près à l'aide des experts des questions internationales ce sujet. Donc, restez avec nous juste après ce reportage. Merci.
Les États-Unis ont mis au point un nouveau type de bombe nucléaire beaucoup plus petit et maniable. Ils vont en construire à la chaîne et en entreposeront dans l'Union européenne pour, entre guillemets, garantir sa sécurité. Une vidéo publiée le 29 novembre par la Sandia National Laboratoire montre un chasseur USA F-35A qui, volant à vitesse supersonique à 3000 mètres d'altitude, lance une bombe nucléaire B-61-12, doté pour le test de tête non nucléaire. Le test a été effectué le 25 août dans le désert du Nevada. Un communiqué officiel confirme sa pleine succès. Il s'agit de la répétition d'un véritable attaque nucléaire que le chasseur effectue à vitesse supersonique et à dispositif furtif pour pénétrer à travers les défenses ennemies. La B-61-12 a une tête nucléaire avec 4 options de puissance sélectionnables au moment du lancement en fonction de l'objectif à frapper. On ne sait pas combien de B-61-12 seront stockés par les États-Unis en Italie, Allemagne, Belgique et Pays-Bas pour remplacer les B-61 dont le nombre effectif est secret. Des photos satellites montrent qu'ont été effectués des travaux de restauration dans les bases d'Aviano. En préparation de l'arrivée des nouvelles bombes nucléaires dont seront armés les F-35A de l'US Air Force et sous commandement US ceux de l'aéronautique italienne. Parallèlement, les forces armées françaises pourraient déployer une nouvelle génération de missiles de croisière lancés par voie aérienne pouvant transporter une ogive nucléaire, rapporte Défense AZ, citant le bloc de la défense.
Voilà pour le reportage. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour. On a un peu l'impression, vous savez, pour moi qui ai une longue vie politique, d'être venu au début des années 1980. Nous combattions déjà contre la transformation de l'Europe en champ de bataille nucléaire. Simplement aujourd'hui, le danger est encore monté d'un niveau.
Oui. Alors, Pour commencer, M. Luc Michel, pour l'instant, nous ne sommes qu'avec vous. Vous avez 45 années de vie politique derrière vous, donc vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions, surtout sur ce sujet. Des pays qui signent des traités de non-prolifération d'armes nucléaires et sont là en train de les fabriquer, et de les tester et donc de entreposer ces bombes en Europe qui visent certainement la Russie. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, c'était déjà, nous étions dans les années 1980-84, c'était déjà la responsabilité des États-Unis qui voulaient transformer le pays de l'OTAN en détenteur d'armes nucléaires et s'utiliser ces armes nucléaires, comme on appelait, des armes en utilisation tactique sur le champ de bataille et plus en utilisation stratégique. On avait déjà des projets comme les Français aujourd'hui de missiles de croisière, les fameux Pershing, et on les tenait déjà clandestinement dans certains pays européens, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, à la base de Kleinbrogel. On détenait illégalement des bombes nucléaires qui étaient hébergées sur des bombardiers. C'est à ça que l'OTAN aujourd'hui nous reconfronte. Il y a seulement eu un danger qui a changé. La même chose, c'est que c'est extrêmement dangereux de voir des armes nucléaires qui sont non pas aux mains d'un président qui doit utiliser des codes et une procédure, qui a des téléphones rouges, etc., mais aux mains de commandement militaire américain, le commandement militaire américain de Rammstein pour l'Eurasie. Mais cette fois-ci, on assiste à un nouveau niveau. Jusque-là, les armes qui étaient détenues en Europe, par exemple, c'est un secret de Polichinelle qui a depuis plus de 50 ans des bombes nucléaires en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Mais jusque-là, elles sont illégalement entreposées à Kleinbrogel en Belgique, par exemple, mais elles sont embarquées sur des avions américains. Elles sont aux mains de l'US Air Force. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui de différent? C'est que ce soit les missiles de croisière testés en France ou la nouvelle bombe de l'US Army, on va en équiper les aviations de l'OTAN, c'est-à-dire des avions belges, des avions allemands. Quand on sait, par exemple, que les avions de l'OTAN belge patrouillent dans le ciel aux frontières de la Russie, de l'Estonie et de Lituanie, on perçoit le danger. Ce qui a changé surtout, c'est le niveau. C'est-à-dire que jusque-là, lorsque des missiles nucléaires décollaient, l'adversaire, quel qu'il soit, savait que c'était la guerre et pouvait réagir. Maintenant, il y a une incertitude. Qu'est-ce qui vous dit que les bombardiers, les chasseurs bombardiers qui se rapprochent de vos frontières ou des missiles de croisière sont nucléaires ou pas? Ce qui a changé, c'est la doctrine nucléaire américaine et on la doit à Donald Trump. Les idiots qui nous racontent que Donald Trump était contre le militarisme, était un candidat anti-système, etc., n'ont pas compris qu'au contraire, il était à sommet du militarisme, notamment avec son club de 120 généraux et amicaux. Quelle a été la nouvelle doctrine des États-Unis, ce qu'ils appellent la posture en anglais nucléaire, nous nous parlons de doctrine en 2018, c'est que dorénavant, la première frappe nucléaire était une frappe préemptive lorsque les États-Unis supputeraient une menace de la part des Russes ou d'une autre puissance, ils frapperaient les premiers. Le résultat est devenu immédiat, c'est-à-dire que les Russes ont adopté en représailles, en rétorsion, la même doctrine nucléaire qu'on appelle la première frappe. Et cela est dans un contexte dangereux pour la Russie, l'abandon des traités nucléaires de réduction et de contrôle des armements, mais surtout en 2015, l'installation en Pologne et en Hongrie de systèmes de radars et de missiles soi-disant destiné à protéger l'Europe de missiles iraniens,
d'accord,
et qui en fait vise directement la Russie.
Oui.
En 2015, oui. J'ai déclenché un scandale diplomatique en Roumanie. J'ai fait la une de télévision. J'avais sur la radio russe, qui était Radio Moscou alors, j'avais expliqué comment dorénavant la Russie concevait que la Roumanie ou la Pologne étaient des cibles en cas de guerre nucléaire du fait de leur installation. J'ai fait la une des journaux télévisés. Ce n'était pas jusque-là apparu comme une évidence aux Roumains, par exemple. C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où on va déployer des bombes nucléaires tactiques, je précise bien la plus tactique, sur le territoire de l'Union européenne, chaque pays qui va les abriter, comme déjà maintenant la Roumanie et la Pologne avec leurs missiles et leurs radars, vont devenir des cibles nucléaires légitimes dans la doctrine. Voilà ce qui se passe actuellement.
Oui, merci pour cette introduction. Monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris. Bonjour, monsieur Hugon.
Bonjour, bonjour à Luc Michel.
Alors, monsieur Luc Michel nous a partagé des informations très importantes contre donc déjà cette politique de deux poids deux mesures pour ceux qui ont signé, certains pays qui ont signé le traité de non-prolifération d'armes nucléaires. Alors, j'aimerais que vous fassiez la liaison entre ces récents tests effectués par la France, l'Allemagne et l'Italie sur des bombes sans doute nucléaires et cette bombe nucléaire maniable petite mise sur pied par les États-Unis qui seront très certainement entreposées en Europe. Faites cette liaison, je vous prie.
Alors, tout d'abord, moi, c'est un point qui me fait doucement rigoler, c'est que le pays qui était en tête pour la non-prolifération des armes nucléaires, en tête pour les compromis de signer pour trouver la paix, sont les pays qui fabriquent le plus de bombes atomiques, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, puisque fabriquer des bombes atomiques, mais pour en faire quoi ? Parce que la Russie n'est absolument pas une ennemie des États-Unis, puisque actuellement, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, on arrive quand même à collaborer avec ce pays, ce qui est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut plus considérer la Russie comme un partenaire commercial, économique, et peut-être même militaire d'ailleurs, parce que dépenser des milliards de dollars de la part d'un pays comme les États-Unis, où les gens crèvent de faim dans les rues, moi je trouve ça assez incroyable qu'on puisse le faire. Vous savez, il y a une misère qui explose actuellement aux États-Unis avec la situation sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Donc je trouve ça absolument délirant que l'on puisse déployer des armes atomiques contre un ennemi qui n'existe pas. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas la Russie qui entrera en guerre. Il n'y a que les États-Unis qui est un pays de va-t-en-guerre et qui pourrait créer des problèmes et qui crée d'ailleurs des problèmes avec tout le monde. C'est pas seulement en Europe, mais également en Amérique latine, en Afrique, en Asie, de partout où vont les États-Unis, ils amènent
Monsieur Hugon.
Oui.
Monsieur Hugon, les États-Unis sont connus pour être champions du monde de créer des problèmes et des guerres à travers le monde. Donc, ce n'est pas la Russie qui va l'empêcher de créer une guerre entre l'Europe et la Russie.
Créer une guerre entre l'Europe et la Russie, je crois que s'il y avait un conflit, malheureusement, tout l'hémisphère nord serait directement concerné par des explosions et par un conflit. Donc, si un pays veut déclencher une guerre, ce sera les États-Unis, sûrement pas la Russie. La Russie n'a pas cette velléité et l'état d'esprit européen est beaucoup plus proche des Russes que des Américains. Donc, alors fabriquer des bombes comme ça quand on a un pays qui est les États-Unis, faut pas oublier que c'est un pays en faillite financière. C'est quasiment un pays du tiers-monde. Regardez l'explosion des gens dans les rues qui crèvent de faim, mais c'est absolument incroyable. Et à côté de ça, on va développer des avions comme le F-35 qui ne sert strictement à rien. On fabrique des missiles qui ne servent à rien du tout. Donc, moi je trouve ça assez incroyable qu'aujourd'hui on ait pu mettre d'ailleurs un président comme Trump, qui est un malade mental, qui est un homme qui est hors des réalités, qui est dans le déni de toutes les réalités. Alors, dépenser des sommes colossales comme celle-ci dans la situation sanitaire dans laquelle on se trouve, ça prouve l'irresponsabilité des Américains et leur incompétence à gérer de véritables situations. Quant aux bombes atomiques petit volume, si je puis dire, avec des frappes concentrées et qui ne soient pas très importantes, je pense que malheureusement, il y a quand même un certain nombre d'années que ces bombes-là existent, hein, et de part et d'autre d'ailleurs, hein, des deux côtés de l'Atlantique. Hein. Je pense que la France a dû mettre au point également ce genre d'armes, les Russes également, et les Américains en tête, puisqu'ils ont un budget colossal pour développer toutes les idioties. Vous savez, si l'idiotie était illégale, beaucoup d'Américains seraient en prison jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Et c'est malheureusement une situation vraiment déplorable aujourd'hui et qu'on peut condamner. Et ça devrait être le rôle de l'ONU de condamner ce genre de situation. Et l'ONU est muet. Ça veut dire que les États-Unis ont mis la main sur tous les pays occidentaux pour les museler.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous saurez répondre à la question de Monsieur Hugon ?
Oui, c'est-à-dire que ce qui a changé ici, c'est la doctrine d'emploi. C'est-à-dire que jusque-là, par exemple, pendant la crise de Cuba en 1962, qui était le dernier grand risque d'une guerre atomique mondiale, la question de l'arme nucléaire, c'était une arme stratégique et reposant sur l'équilibre de la terreur. Et puis, en 1980, avec la crise des euromissiles et aujourd'hui, l'OTAN et les États-Unis, qui partagent la même doctrine d'emploi, ils ont développé l'idée de l'arme nucléaire comme arme tactique de bataille et de terrain, de l'utilisation donc de cette arme nucléaire en première frappe dans un combat classique, et ils ont renforcé les risques de guerre et d'accident. Qu'est-ce que c'est l'accident nucléaire ? C'est que là, n'importe quel officier sur le champ de bataille, n'importe quel accident peut conduire à une guerre nucléaire. C'est à cela que ces armes tactiques sont des armes tactiques, ce ne sont pas des armes stratégiques. Les missiles de croisière équipés de têtes nucléaires, ces combats atomiques nucléaires, ce sont des armes tactiques largement déployées dans les unités combattantes, avec tous les risques qui n'existaient pas avec la conception anciennement stratégique. Il n'existe pas là-dedans. On est au cœur, en fait, d'une problématique. Vous devriez connaître le fameux film antimilitariste de Stanley Kubrick, le docteur Folamy, où un savant nazi recyclé par les États-Unis est à l'origine, par erreur, d'une guerre nucléaire totale. Eh bien, c'est le docteur Folamy qui sont aujourd'hui de nouveau en service au Pentagone, au grand état-major français de Versailles et ailleurs. Les docteurs Folamour, ils envisagent froidement une utilisation de l'arme nucléaire, c'est-à-dire quelque chose comme Hiroshima ou comme la Kazakhstan, ou même comme la destruction bipartite. Ils considèrent cela comme l'utilisation d'une arme tactique.
Monsieur Luc Michel, oui.
De la politique.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, pourquoi l'Europe, et surtout la France, donc, vont très bientôt tomber dans le piège des États-Unis et devenir sans doute une base nucléaire militaire pour les États-Unis qui viserait la Russie éventuellement?
Parce que les États-Unis jouent habilement. C'est-à-dire que tout d'abord, l'OTAN, c'est une manière de tenir en l'air les Européens. L'OTAN est construit de telle façon qu'il y a un danger russe. Le danger russe, il est agité en particulier par ce qu'on appelle la Nouvelle Europe, les membres de l'OTAN, qui étaient jadis alliés de l'Union soviétique dans le pacte de Varsovie, ou des républiques soviétiques. En particulier, les foyers de russophobie, ce sont la Pologne qui est agitée par la nostalgie de la Grande Pologne de 1919, la Roumanie qui est agitée par la nostalgie de la Grande Roumanie de 1918. N'oubliez pas qu'en 1941, la Roumanie est alliée à Hitler et fait d'Odessa, le fameux port aujourd'hui ukrainien, alors soviétique, une ville roumaine. C'était la fameuse province de Transnistrie. À partir de ce moment-là, on crée un danger russe artificiel, alors que les Russes, au contraire, veulent se rapprocher de l'Europe occidentale pour des raisons stratégiques et économiques. Et donc, ils sont en train de marcher dans ce que j'appellerais la conduite. D'autant plus que, aujourd'hui, l'autonomie stratégique des membres de l'OTAN est réduite. L'OTAN suit copier-collé carbone, suit la doctrine américaine. Et enfin, il y a l'abaissement de la France. C'est-à-dire que la France du général de Gaulle avait sa propre dissuasion nucléaire, la doctrine qu'on appelle la dissuasion du faible au fort, ce qui limitait les risques de guerre nucléaire. Elle visait une certaine indépendance là-dedans. Et depuis Sarkozy, Hollande et Macron, depuis la rentrée comme meilleur allié des États-Unis de la France dans l'OTAN militaire, je précise militaire et plus politique, eh bien, les Français suisses, eux qui étaient les champions de leur propre dissuasion nucléaire, ils sont en train de développer un missile de croisière qui participe directement à la doctrine militaire actuelle, au déplacement d'armes nucléaires tactiques sur le terrain en
tout
Europe.
À fait. Oui.
C'est du suicide dont on est à 2000 km de Moscou.
Tout à fait. C'est impressionnant, Monsieur Luc Michel, les informations que vous disposez concernant les différents sujets ici, donc l'entrepôt des armes nucléaires. À présent, je m'adresse à Monsieur Hugon. Alors, Monsieur Hugon, la France et l'Italie et l'Allemagne et d'autres pays européens vont dépendre énormément, bien plus qu'avant, donc des décisions stratégiques prises par Washington quand il aura des bases nucléaires militaires en Europe. Qu'en pensez-vous?
Oh ben oui, il y a très longtemps que la France n'a plus la maîtrise de sa défense. Hein. Dès l'instant où les États-Unis sont rentrés dans le jeu, ils ont fait pression pour que tous les dirigeants européens se rangent sous la coupe de l'OTAN, hein, ou du moins des organisations parallèles à l'OTAN, mais qui lient fortement les États-Unis aux pays concernés. Et les pays qui refusent cette doctrine, eh bien, sont punis économiquement par les États-Unis. Il est vrai que jusqu'à présent, les États-Unis étaient un très grand marché pour les Européens, ce qui, bien sûr, s'amenuise un petit peu aujourd'hui, mais ils sont encore très présents. Et les États-Unis pratiquent une politique de chantage. Soit vous faites ci et vous faites ce qu'on vous dit, soit vous aurez des problèmes. Voilà, donc en fait, c'est ni plus ni moins que du chantage. Hein. Et il faut bien savoir
qu'il y avait... C'est réussi, M. Hugon, en Europe?
Ah ben ça a réussi très longtemps, hein, et ça réussit encore actuellement. Et il ne faut pas oublier qu'on a à la tête des États-Unis un adolescent capricieux et coléreux. Trump, c'est un adolescent dans sa tête. Hein. C'est l'homme de la colère, c'est l'homme des caprices. Si on ne fait pas ce qu'on veut, eh bien il vous punit. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, là, la passation de pouvoir avec Joe Biden, c'est quand même incroyable que cet ex-président ne se rende pas à l'investiture du président Biden. C'est absolument hallucinant de voir une idiotie pareille. Et Donald Trump ne respecte rien ni personne. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on en est aujourd'hui dans cette situation-là. Un président des États-Unis devrait jouer la carte de la diplomatie, de la paix, et se rendre d'ailleurs en Russie et ne pas ménager ses efforts pour que la paix perdure et arrêter cette course à l'armement qui coûte des milliards de dollars pour rien. Je le répète bien, pour rien. Surtout dans un pays miséreux comme les États-Unis aujourd'hui. Les SDF, les sans-abri, le nombre a été multiplié, mais c'est absolument invraisemblable. Des gens crèvent de faim dans les rues. C'est ça les États-Unis, il faut le dire. Hein. Vous avez une petite classe dirigeante qui vit merveilleusement bien, et vous avez actuellement 70% de la population qui vit extrêmement mal et qui ont du mal à s'en sortir à chaque fin de mois. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Alors qu'on aille gaspiller de l'argent, des ressources, de l'énergie pour fabriquer des bombes qui ne servent à rien, je trouve ça un peu déplacé aujourd'hui. Hein.
Monsieur Hugon, alors pourquoi la France est soumise à cette politique?
Oh, la France est soumise pour des raisons économiques. Hein. On a toujours les États-Unis ont toujours en tête l'esprit de la punition. Si la France ne prend pas les bonnes décisions envers les États-Unis vont nous punir par des restrictions économiques. Hein. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous de l'histoire du Concorde. Hein. Soi-disant que le Concorde faisait trop de bruit et donc on a interdit, mais il y avait bien sûr des raisons économiques, des raisons de fierté nationale qui fait que les Américains n'avaient pas accepté que la France puisse mettre au point un avion de ligne, le premier avion de ligne supersonique. Donc on voit bien cette politique de punition que les États-Unis ont envers tous les États qui n'adhèrent pas à leurs idées.
Oui, tout à fait. Monsieur Luc Michel, mais la Russie tout de même, quand il aura une base militaire nucléaire en Europe, la Russie ne va pas rester les bras croisés, certainement, et va riposter. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, on assiste, malheureusement, on impose à Moscou un escalade de la terreur. Déjà pour répondre aux missiles nucléaires et aux radars qui visent Moscou, qui sont en Pologne et en Roumanie, Sur la partie russe qui est enclavée entre la Pologne et l'Allemagne, l'ancienne Prusse orientale qui s'appelle Kaliningrad aujourd'hui, ils ont déployé des batteries de missiles. Qu'est-ce qui va exister tout simplement ? Dans le système d'alerte renforcée des Russes, bien entendu, chaque pays qui va héberger des armes d'agression nucléaire qu'on qualifie va devenir une cible. C'est officiellement le cas de la Roumanie et de la Pologne. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas Trump qui a commencé ce problème. C'est le système américain qui est un système bipartisan, démocrate-républicain, même s'il y a une espèce de schisme à l'intérieur aujourd'hui. Tous ces projets ont été pensés par les néoconservateurs sous Bush 2 et ils ont été accomplis pour Obama. Lorsqu'on déploie les missiles américains en Pologne et en Roumanie, lorsqu'il y a la crise concernant ces deux pays auxquels j'étais intimement lié, eh bien, c'est Obama qui est au pouvoir. Et vous allez voir que Biden ici et Kamala Harris, qui sont les porteurs de valises de ces mêmes réseaux, vont encore plus renforcer le militarisme et tout cela. Le système américain est un système de... C'est un système, tout d'abord, où le lobby militaro-industriel, justement, a eu un poids politique démesuré. C'est pas moi qui dis ça, c'est le président Eisenhower. C'est le premier qui, à la fin de son mandat, a dénoncé ce lobby. Ce lobby vit des commandes militaires, de la course aux armements, etc. Et donc, il a tout intérêt à ces escalades. Il faut donner une précision, parce que autrement, on ne comprend pas ce qui se passe. Lorsqu'on invente la Troisième Guerre mondiale, c'est un fantasme géopolitique en Europe, c'est un fantasme géopolitique en Afrique, mais ça ne l'est pas aux États-Unis. Les géopoliticiens américains, Friedman, le patron de Stratfor, le think tank du lobby militaro-industriel par exemple, il évoque dans son livre manifeste de Nelson Reagan, il évoque cette nouvelle guerre mondiale froidement, il vous la décrit. Il décrit qu'elle va avoir lieu entre 2050 et 2070.
Oui,
et il
merci.
Vous explique que le but des Américains, c'est de la gagner de façon à ce qu'il y ait un 22e siècle américain. Friedman ajoute que cette guerre va avoir largement, sur
tout
un territoire qui va de la Pologne jusqu'au Balkan, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. La Roumanie, à la fin de cette guerre mondiale, elle n'est pas remerciée de servir de plateforme d'agression américaine contre la Russie, puisqu'elle est dévastée nucléairement. Et à la fin de la guerre, on la donne comme butin à la Grande Turquie. La Grande Turquie qui a rompu, qui est l'adversaire des États-Unis dans cette guerre mondiale.
Tout à
C'est
fait.
À ça qu'on a
oui.
dit. Ce sont des gens froidement qui planifient une guerre mondiale avec utilisation généralisée des armes nucléaires tactiques. Étant donné que dans la vérité, cette guerre est limitée à l'Europe centrale, et par exemple, quand un grand nombre de pays restent neutres, il y a par exemple une petite Union européenne de 10 États, les 10 États originaux autour de l'Allemagne, qui est devenue une espèce de grande Suisse, qui a abandonné toute velléité historique et qui donc est neutre pendant la guerre.
Tout
les
à
leaders
fait.
De cette guerre, c'est la Grande Pologne,
oui.
c'est la Grande Roumanie, c'est la Grande Turquie. Ce sont ces États qu'on voit émerger aujourd'hui. Et ce qui est tout à fait ironique, c'est que en 2050, les Américains pensent qu'ils auront éliminé la Russie et la Chine. La Troisième Guerre mondiale, elle se fait entre leurs anciens alliés, la Grande Pologne, la Grande Roumanie, la Grande Turquie. On est dans le cynisme planétaire absolu. On est face à une élite dirigeante américaine qui est une élite criminelle et
Absolument.
Criminogène.
Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'internationalisation du yuan est l'initiative de la nouvelle route de la soie, de priorité politique pour la Chine. L'initiative La ceinture et la route, ou nouvelle route de la soie,
n'a peut-être qu'une poignée d'années derrière elle, mais de nombreux fondamentaux étaient en mouvement depuis des années avant le lancement officiel en 2013. Il y a près de deux décennies, le gouvernement chinois a commencé à encourager les entreprises publiques à investir à l'étranger avec sa politique d'ouverture. L'objectif, l'internationalisation. Cette volonté est également devenue centrale dans la stratégie de la BRL, l'initiative La ceinture et la route, qui consiste à investir dans des infrastructures maritimes et ferroviaires pour faire le pont entre la Chine et l'Europe. Pour l'Empire du milieu, il s'agit de s'intégrer plus profondément dans le système économique international pour asseoir son hégémonie commerciale. Un élément clé de cette intégration est également la fameuse internationalisation de la monnaie renminbi RMB, plus communément appelée yuan. Les efforts de la Chine ici ont officiellement commencé en 2009, lorsqu'elle a permis le premier pool de devises offshore à la disposition des entreprises nationales. Les avantages sont les suivants. Réduction des risques de taux de change pour les exportateurs et les importateurs et le soutien du commerce chinois pour limiter les risques de choc de l'offre sur le dollar américain, comme ce fut le cas pendant la crise financière de 2008. L'économie internationale en bénéficierait également. L'internationalisation du renminbi offre un accès plus large au marché de capitaux offshore du renminbi, ce qui peut réduire les coûts d'emprunt. En effet, les taux d'intérêt sur le marché obligatoire offshore en renminbi, basé en grande partie à Hong Kong, sont généralement inférieurs à ceux des marchés chinois offshore. Et pour les entreprises internationales opérant en Chine, l'utilisation du renminbi réduit les risques de change et peut offrir de meilleurs prix. Il reste néanmoins des inconvénients. L'internationalisation du renminbi pourrait compliquer la politique monétaire de la Banque populaire de Chine, PBOC, rendant difficile le maintien de la libre circulation des capitaux, la stabilité du taux de change et une politique monétaire indépendante. Plus précisément, cela élargirait la possibilité pour les résidents et les non-résidents d'acheter et de vendre en monnaie nationale, des actifs financiers par exemple. Ceci limiterait ainsi la capacité de la banque centrale à influencer les taux d'intérêt intérieurs et la masse monétaire par le biais d'opérations de pay market, achat-vente de titres publics. De plus, si le renminbi devient une monnaie de réserve, la banque centrale assumerait davantage de responsabilités vis-à-vis du reste du monde. Car les politiques macroéconomiques des pays émetteurs de monnaie de réserve ont souvent des retombées importantes. Cela pourrait réduire la marge de manœuvre de la Chine pour sa politique économique interne. Étant donné que l'internationalisation du renminbi et la PRI, l'initiative La ceinture et la route continuent d'être des priorités pour la Chine, nous entendrons de plus en plus parler de ces initiatives dans les années à venir. Bien que le renminbi ne représente que 1% des réserves de change allouées dans le monde, contre 63% pour le dollar et environ 2% des paiements mondiaux, sa portée s'est accrue, et notamment cette année 2020. Environ 60 pays détiennent des réserves de renminbi et la Banque populaire de Chine a signé des accords bilatéraux d'échange de devises avec 32 pays, destinés à soutenir le commerce et l'investissement et à accroître l'utilisation du yuan à l'échelle internationale. La pondération de la devise chinoise dans les paniers de devises régionaux d'Asie a également augmenté régulièrement depuis 2008. Cependant, avec les contrôles des capitaux en place, aucun calendrier clair n'est fixé pour la convertibilité totale du renminbi. Il ne semble pas y avoir de déclencheur évident pour propulser la croissance de la monnaie dans le commerce international, à l'exception justement de la BRI, l'initiative, la ceinture et la route. L'initiative, la ceinture et la route va-t-elle renforcer le renminbi? La question est maintenant de savoir si la BRI, l'initiative, la ceinture et la route, peut à terme renforcer le rôle du renminbi dans l'économie mondiale. Et quels seraient les avantages potentiels pour les nombreuses entreprises associées au projet de la BRI? Une grande partie de la réponse réside dans la compréhension du succès de l'internationalisation à ce jour. La Chine a jusqu'à présent emprunté la voie la moins fréquentée pour l'internationalisation de sa monnaie, essayant de développer un marché du renminbi offshore tout en maintenant des contrôles stricts des capitaux et en réglementant étroitement les marchés financiers. L'internationalisation du renminbi a semblé décoller entre 2010 et 2015. Les paiements à l'importation ont dépassé les paiements à l'exportation en renminbi, créant une sortie de devise qui a vu les dépôts offshore de renminbi passer de presque zéro à plus de 300 milliards de dollars en 2015. Les attentes du marché pour un renminbi plus fort ont boosté les flux et accéléré l'internationalisation de la devise. Mais le processus a ralenti entre 2015 et 2017 alors que la Banque centrale chinoise a atténué son contrôle monétaire. Les paiements en renminbi pour les importations ont diminué, tandis que les attentes du marché sur la dépréciation du renminbi se sont accrues. La valeur du renminbi offshore a donc chuté, le flux de devises est revenu de l'étranger et le stock de dépôts de renminbi offshore a diminué de moitié. Les contrôles des capitaux et la politique de désendettement financier ont également pesé sur l'internationalisation, limitant le flux de capitaux vers les investissements à l'étranger. Nous avions vu précédemment que le contrôle des capitaux de ses citoyens était une problématique essentielle du pouvoir communiste. Il semble aujourd'hui que tout l'Occident soit d'accord pour stopper l'expansion chinoise qui se traduit par ces deux projets principaux d'internationalisation du yuan et de nouvelles routes de la soie. La diabolisation de la Chine sera-t-elle suffisante face à ce changement géopolitique et économique structurel ?